Quelqu'un qui a parlé d'un oncle qui est dans une EHPAD. Voilà, ça y est. J'ai un oncle en EHPAD. Nous avons eu le médecin mercredi qui voulait notre consentement. On a refusé, il l'a écrit au dossier. Bah justement, c'est de ça dont je vais parler ce soir, figurez-vous. Parce que donc j'ai un ami médecin, comme vous savez, j'en ai eu plusieurs hein, qui sont médecins et qui ont reçu un mail long comme un jour sans fin. Hein. Faut que tu prennes le temps de le lire. Donc, je pense pas qu'il y en a beaucoup qui vont le lire. Il faisait plus de 40 pages. Si tu veux, c'est un petit peu long quand même. Mais très gentiment, il l'a décortiqué et il me l'a passé. Je l'ai redécortiqué et je vous le passe. Voilà. C'est juste énorme. Vous allez voir comment on nous prend pour des on. Et comment on nous ment, surtout comment on nous ment. C'est très, très important. Donc voilà. C'est énorme. C'est très important, je pense, de diffuser autour de vous ça parce que c'est là où on comprend la supercherie. Il y a beaucoup de gens, hein, dès lundi 27 décembre, parce que c'est là que va débuter la vaccination Pfizer dans les EHPAD, pardon. Bien sûr, tous les médecins de France ont reçu le mail de ce discours que je vais vous lire. Alors, je ne vais pas tout vous lire parce que c'est très, très, très long. Déjà là, de 30 pages, on est passé, c'était 30 pages. De 30 pages, on est passé à déjà 15 pages, ce qui est beaucoup. Et puis d'abord, qui va le lire? Dites-moi un petit peu qui va lire ça. Donc pour ceux qui le liront, qui saura lire entre les lignes? Donc ce discours, c'est sur les enjeux éthiques hein, d'une politique vaccinale contre le SARS-CoV. C'est la réponse du comité. Alors le comité CNE, c'est quoi? C'est le comité conseil. Comité de conseil, je sais plus, il faut que je le retrouve, mais bon. Qui émet donc que la vaccination contre le Covid est un enjeu de santé publique et que la question du vaccin devrait marquer notre société pour les années qui viennent, y compris sur le plan éthique. Donc ça, c'est très important. Alors, il t'explique hein, que depuis 2020, la pandémie, les mesures prises pour endiguer la diffusion, provoquer des perturbations dramatiques du fonctionnement des sociétés dans leur dimension sanitaire, économique et sociale, et que malgré tous les efforts déployés, il n'existe pas de traitement curatif ni préventif, ni préventif. Alors qu'on a le traitement curatif avec la chloroquine et pas mal de choses d'autres, mais c'est pas grave. Même si des progrès ont eu lieu dans la prise en charge des formes graves, paraît-il. Je rappelle quand même que le Covid-19 est une grippe. Que 40 000 morts, c'est ce qu'on a tous les ans. À côté des mesures barrières, voire du confinement, la stratégie tester, tracer, isoler, accompagner est fondamentale, dit ce mail, pour éviter la diffusion du virus. Depuis quelques semaines, des perspectives de recours à la vaccination faisant émerger une nouvelle stratégie de prévention et l'espoir réaliste de retrouver prochainement une vie normale, sont apparus plus rapidement que prévu. Ben voyons. On ne sait pas. On ne sait pas si ces premiers vaccins réduisent la transmission, se disent-ils. On ne sait pas. C'est incroyable. Au-delà des aspects scientifiques, médicaux, économiques, du développement et de la production vaccinale, il ne faut pas sous-estimer les incertitudes qui subsistent, pleinement conscient des défis sociétaux et éthiques qui devront être relevés. Attendons-nous à de grands, grands, grands changements. C'est déjà occasionné. Alors, ceux qui pensent encore que parce que le vaccin arrive, tout va redevenir comme avant, je vous le dis, ça ne reviendra jamais. Jamais. C'est un changement fondamental de notre société pour toujours. Ils te disent qu'il ne faut pas sous-estimer les incertitudes quand même, hein. Continue la lecture. Cette réflexion éthique préalable est essentielle si l'on veut que la stratégie vaccinale, objectif, modalité, régulation, recueil du consentement de chacun puisse s'inscrire avec succès, dans une politique de santé publique. En dépit des réticences de la population française à l'égard même de la vaccination, donc ils sont conscients qu'on veut pas de leur merde. Ils sont conscients, donc ils vont essayer de manipuler les médecins. Vous allez voir, c'est ce qui est écrit dans le texte. Donc, ils seront les seuls garants de la réussite de cette campagne, ces médecins. Donc, il faut bien qu'on leur vende. Il faut bien que ce soit enrobé quand tu enveloppes une grosse MERDE, il faut que tu l'enrobes dans un joli papier avec des nœuds, des papillons, tu vois. Et donc, avec ce discours, vous allez voir, c'est ce qui est fait. Si les mesures de protection mises en place, gestes barrières, confinement, couvre-feu, sont efficaces, mais difficilement supportables sur un temps long. Elles ont un effet déstructurant sur le tissu social. Ralentissement de l'économie, augmentation de la pauvreté, de la précarité, limitation drastique de la vie sociale, éducative, culturelle, avec des conséquences indirectes, graves sur la santé. Oui, là, par contre, ça, c'est vrai. Parce que jusqu'à maintenant, si tu veux, un an de mise de protection avec des gestes barrières de confinement, faut quand même qu'on arrête de croire qu'il y a encore un virus. Hein, vrai qu'on arrête. Ça serait bien quand même d'arrêter d'être bête. Ça serait vraiment bien. Donc, dans ce contexte, l'attente d'un vaccin est très forte, dit ce discours. Et il apparaît la seule manière possible de contrôler à terme la pandémie. Alors, vous allez voir, on parle de pandémie et puis d'épidémie. D'ailleurs, ça alterne sans arrêt, dans le même courrier, hein, dans le même courrier de 30 pages. Et si les mesures de santé publique seront nécessaires encore plusieurs mois. Ouais. Afin de permettre une mise à disposition rapide de ces vaccins, dans un contexte épidémique fragile, voire inquiétant, les autorités réglementaires FDA et EMA en Europe ont instauré des procédures accélérées pour réduire le délai de mise en place sur le marché. Alors, les doutes d'une partie de la population sur la rigueur des procédures et la sécurité des vaccins qui ont été créés rapidement. Tu m'étonnes, normalement, il faut 10 ans pour faire un vaccin. Là, 2 mois. Ce que le contexte pandémique a aussi fait émerger au-delà de l'urgence sanitaire, c'est l'urgence de se donner un cadre éthique. T'as vu, c'est dingue. L'éthique, il ne parle que d'éthique dans ce discours. C'est pour vous dire combien ce vaccin à ARN va modifier notre génétique. Si, quand on te parle d'éthique, c'est qu'on va bouger quelque chose de l'ordre du naturel. C'est-à-dire que l'être humain va être modifié. Prenez bien, bien conscience de ça. Et que ce n'est pas seulement pour protéger celui auquel le vaccin sera administré. Alors là, je continue la lecture. Car ce n'est pas seulement pour protéger celui auquel le vaccin sera administré. La vaccination protège aussi les autres. C'est pas nouveau, ça. Ce qui est en évidence, ce caractère altruiste et l'utilité sociale de la vaccination. Oui, tu te vaccines. Comme ça, tu te protèges les autres. Hein, c'est le même principe que quand ton voisin a mal à la tête, par exemple. Ton voisin a mal à la tête, eh bien, toi, tu prends un aspirine et là, tu soulages direct son mal de tête. Hein, c'est le même principe. C'est exactement le même principe. Quand tu te vaccines, tu protèges les autres. Eh ouais, bah ça c'est nouveau hein, dans la médecine. Ça a toujours été leur argument de vente débile, non avenu, qui ne sert à rien, qui est mensonger au possible. C'est que quand tu te vaccines, il paraît que tu protèges les autres. C'est te dire combien le vaccin n'est pas efficace, en clair. Alors, il sera légitime de proposer la vaccination à un individu jeune, sain, chez lequel le virus n'entraînera qu'une maladie bénigne, voire aucune symptomatologie. Mais qui pourra être acteur dans la transmission. Oui, t'es pas malade, mais tu transmets. Hein. Ça aussi, c'est la nouvelle médecine depuis des années comme ça qui ment sur la transmission des virus. Tu comprends? Ça fait vendre, sinon ça fait pas vendre. Voilà. Et indirectement, subir les conséquences sociales, économiques et culturelles de l'épidémie. Ben oui, parce que s'il transmet, ben ça pose des problèmes. Hein. On va être encore enfermé. Allez, oui. Donc, je ne sais pas si vous lisez le principe de la manipulation, si vous voyez comment ils utilisent la force de culpabilisation à travers les médecins pour qu'ils vous l'enseignent aussi à vous et que vous puissiez accepter. Je poursuis la lecture. L'acceptation de réaliser un acte dont le bénéfice personnel n'est pas démontré dépend de la manière dont on comprend les conséquences de cet acte. Bon, là, il faut bac plus 10. Hein. Non seulement pour soi, mais aussi pour les autres. En clair, la manière dont je vais te faire culpabiliser va t'amener à l'acceptation du vaccin. Donc, allez-y, Médecins de France, allez-y, faites le bonheur, faites le boulot des manipulateurs et non de médecins avertis. Alors, ils ont mis un cadre éthique qui disent complexe à définir, mais fondamental à discuter. Cette réflexion qui doit déboucher sur une stratégie vaccinale doit respecter les principes qui fondent l'éthique médicale et les droits fondamentaux de toute personne. Égalité, équité, respect des principes d'autonomie et de consentement, de bienveillance, non-nuisance. Alors là, ils ont pas mal au Hulk. Rapport entre bénéfices collectifs et risques individuels. Tu vois un peu la manipulation du discours ou pas? Parce que c'est énorme. et justice pour déterminer les conditions d'accès. C'est énorme. Hein. Écrivez-le vous quelque part, ce que je viens de lire, parce que c'est juste énorme. Donc là, on vient de voir pour qui c'était. Maintenant, on va voir comment. C'est toujours, hein, je vous ai dit, c'est pour qui, c'est pourquoi, comment ça marche. Ah, comment ça marche? Eh bien là, on te parle du respect de l'autonomie de la personne, hein, qui se décline notamment par le recueil de son consentement au moment de la vaccination, c'est-à-dire son adhésion qui va être délivrée à la suite d'un processus d'information qui va lui permettre de prendre sa décision. On parle des EHPAD là tout de suite, attention, on parle des EHPAD. Hein. En clair, vos médecins vont devoir obtenir votre adhésion pour que votre consentement deviennent efficaces par la formation en utilisant la culpabilisation. Je ne sais pas si tu vois le principe. Alors, on continue avec Cure. Ce processus d'information et de recueil de la volonté de la personne pourra nécessiter des modalités adaptées, évidemment. Hein. Donc, la nécessité de renouveler en permanence la réflexion, c'est rabâcher la peur, en somme, hein, c'est ça. Je te rabâche quand même les dangers de cette maladie. Hein, le masque, tu dois mettre le masque. Peut-être, si tu as le vaccin, tu poseras le masque. Pas tout de suite, mais peut-être. On ne le posera jamais, le masque. Comprenez bien qu'on ne le posera jamais, vaccin ou pas. Et compte tenu de l'évolution très dynamique de l'épidémie, depuis un an, incroyable, on n'a jamais vu une épidémie durer aussi longtemps. Donc, tu as vu là, compte tenu de l'évolution très dynamique de l'épidémie, il y a 2 secondes, on parlait de la pandémie. On revient à l'épidémie, puisque c'est plus parlant, une épidémie. C'est l'épidémie, ça revient, gastro, grippe, coronavirus, hein, c'est-à-dire, hein, c'est la même chose. Tout ça, c'est la gastro, c'est le norovirus, et la grippe, c'est les coronavirus. D'accord? On n'en est pas à notre première grippe. On en a eu des millions de grippes depuis le début de l'humanité, tu comprends? C'est un nettoyage du corps, donc c'est complètement normal. Compte tenu du climat d'incertitude inédit qu'elle induit et de l'extrême gravité qui résulte de sa durée, et oui, un an, c'est long quand même, je te jure, c'est long pour une grippe, hein. L'obligation d'inscrire la stratégie d'allocation vaccinale. On va t'allouer des vaccins. Très important ce mot. D'inscrire la stratégie d'allocation vaccinale dans un climat d'incertitude inédit. Oui, toujours maintenir la peur. Des temporalités très différentes puisqu'il faut débuter une campagne de vaccination dès l'autorisation des premiers vaccins alors même que l'on continue d'analyser les résultats. C'est écrit par eux, hein. Tout ce que je vous lis, c'est écrit par eux. C'est-à-dire, on te dit qu'on continue d'analyser les résultats. Je ne sais pas si tu te rends compte. Je vous rappelle que cette lettre, tous les médecins de France l'ont reçue la semaine dernière. Ils savent donc tous qu'ils engagent leur responsabilité morale d'injecter un produit sans en connaître les moindres contours, les moindres conséquences possibles, et sans même être allé voir, sans aller chercher quoi que ce soit, ils se contentent de ce qu'on leur raconte. La campagne vaccinale imminente se présente aussi avec une disponibilité limitée des vaccins, en tout cas pour les 6 mois à venir. Une phase initiale débute en fin décembre 2020, début janvier 2021, pendant laquelle 1, peut-être 2 vaccins seront disponibles en France, en quantité très limitée. Tous les besoins prioritaires ne pourront pas être couverts et comme dans la plupart des autres pays, des décisions doivent être prises dès maintenant pour respecter l'équité, protéger les plus vulnérables en définissant des groupes prioritaires. Alors, s'il parle de l'équité comme le vaccin contre la rubéole qui vaccine les filles comme les garçons, tu vois? Bref. L'enjeu est dans ce temps premier, de sauver des vies. Et oui, il faut sauver des vies, les gars, il faut sauver des vies. C'est-à-dire, on s'attendait quand même à plus de morts avec un virus comme ça, mais on n'en a pas eu assez. Voilà, c'est ballot. Donc, il ne concerne pas l'ensemble de la population. Et oui, il faut sauver certaines vies. Donc, je te demande, si c'est les personnes âgées qui sont vraiment en danger parce qu'on va vacciner dans les EHPAD, explique-moi 2 secondes pourquoi on met des masques à nos enfants de 6 ans. Seconde phase pendant laquelle arriveront des retours d'expérience sur l'administration de ces premiers vaccins innovants à ARN. Seconde phase, je relis, hein, pendant laquelle arriveront des retours d'expérience sur l'administration de ces premiers vaccins innovants à ARN. Tout ceci, je le redis, a été envoyé à tous les médecins de France. Vous ne rêvez pas. C'est incroyable. Qui seront d'ailleurs plus largement disponibles et concurrencés par l'arrivée d'autres vaccins actuellement en phase d'essai clinique et d'autorisation. Se posera alors la question d'un enjeu plus collectif de la vaccination, celle des autres groupes prioritaires, puisqu'on va de priorité en priorité finalement, puis des populations jeunes, pour lesquelles la balance personnelle bénéfice-risque peut entrer en conflit avec l'intérêt général. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, maintenant qu'on a vacciné les personnes âgées, maintenant qu'on en a tué pas mal, maintenant qu'on a eu un retour sur le vaccin, que d'autres arrivent, on va vacciner les jeunes. C'est-à-dire que là, à partir de là, on va les rendre ad vitam aeternam, modifiés génétiquement. Un vaccin à ARN modifie votre ARN, c'est-à-dire le message de votre ADN à vie. Et pour les générations futures, prenez-en bien conscience. Ça, je ne pense pas qu'on vous l'explique, c'est à vous d'aller le chercher. Donc, posant comme principe l'impératif de préserver un maximum de vie. Et cette prise en compte de la vulnérabilité qui guide l'éthique médicale, oui, si, ils ont une éthique. On ne voit pas, mais ils ont une éthique. Prime sur une autre conception plus utilitariste de la personne humaine. C'est beau, ça. Cette prise en compte de la vulnérabilité qui guide l'éthique médicale prime sur une autre conception plus utilitariste de la personne humaine. Magnifique. L'avis du CCNE, Comité Consultatif National Éthique, rappelait en 2009 que la valeur individuelle de chaque personne doit être connue comme absolue. Sélectionner les personnes à vacciner en situation de restriction de vaccin, en fonction de leur seule valeur économique, sociale, immédiate ou future, ne serait pas acceptable. Parce que la dignité humaine, car la dignité d'une personne n'est pas tributaire de son utilité. Ah bon ? Alors pourquoi on a tant de différences de salaire ? Un groupe prioritaire, les personnes âgées, sauver des vies. Et remarque, pour les médecins, faut les encenser un petit peu, les médecins. Ils vont vacciner, ils vont sauver des vies. Ils vont sauver des vies des personnes de 95 ans, 90 ans, en EHPAD, qui ont moult pathologies. Mais ils vont sauver des vies, tu penses, évidemment. On sait déjà qu'avec le vaccin de la grippe, on a à peu près 20, 30, 40% de morts. Et puis, dans les jours, pratiquement 10 heures après, et dans les jours qui suivent aussi. On le sait. Mais bon. C'est en EHPAD, hein. Je te parle des gens en EHPAD qui ont des comorbidités importantes. Alors, je poursuis ma lecture. Vacciner les personnes âgées dans ces lieux de confinement éviterait le développement de formes graves et sauverait donc des vies en l'absence d'alternatives thérapeutiques. Alors, ça, ils ne mettent pas qu'ils n'ont pas voulu la chloroquine du professeur Raoult, parce que c'est un charlatan, paraît-il. Hein, donc, on n'a pas d'alternative thérapeutique parce que le gouvernement nous l'a volé, retiré et nous a dit que nos meilleurs scientifiques étaient les plus charlatans. Donc, prenons le vaccin. Formidable. En clair, entendez bien que nos testeurs sont nos grands-parents, nos parents, nos arrière-grands-parents. Ouais, un test grandeur nature pour seulement 45 000 morts dans notre pays. Est-ce une pandémie, 45 000 morts ? Parce que ce sont les chiffres habituels. Sachant qu'en plus, ces 45 000 morts sont tous faux, puisque nous n'avons plus de crise cardiaque, de décès du cancer et tout. Hein. Voilà, ni même de la grippe d'ailleurs. Donc, si tu veux, tout est faux. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné comme ils le désiraient. Donc, ils ont été obligés de mentir un petit peu partout pour obtenir 45 000 morts. Alors, ils te le vendent à toutes les sauces. Ils passent aussi par ses écrits. Hein. Un autre avantage, paraît-il, serait la reprise plus rapide des échanges intergénérationnels, familiaux, amicaux, si précieux pour les résidents, que cette application drastique des gestes barrières a pu rendre très difficile. Cependant, dit-il, on doit insister également sur le fait que l'efficacité de ces vaccins dans cette population ne sera pas de 100%. Ah ben, on ne te dit pas de combien, mais on sait que ça ne sera pas 100%. Ah, ça, on le sait d'avance. Mais alors, l'efficacité à combien, ça, on ne sait pas, par contre. Non, ça, ils ne savent pas. Je te dis juste, pas efficace à 100%. Alors, est-ce que c'est efficace à 20%, 30%? Non, ils ne savent pas non plus. Ben, c'est normal, c'est un test grandeur nature qu'on fait sur nos anciens. Donc, si tu veux, on aura le retour peut-être après. Non, ils ne savent pas. Hein, je te le dis, ils ne savent pas. Je continue ma lecture. S'il était formellement démontré que les vaccins bloquent la transmission objective, l'objectif de protection des personnes âgées pourrait être atteint en offrant le vaccin en priorité à ceux qui sont le plus susceptibles de transmettre le virus dans le cadre de leur activité professionnelle au sein des EHPAD. Ouh, les soignants, c'est à vous. en particulier les soignants. Allez les soignants, on vous applaudit plus, on vous applaudira plus, on dirait, hein? Hein, non, vous allez passer à la casserole, vous aussi. Dans l'immédiat, il n'existe pas de choix possible de vaccin. Et même si les essais cliniques indiquent une réponse immunitaire chez les personnes âgées, incluses dans ces essais, je relis, hein. C'est écrit par eux. Je vous mettrai le discours, hein. Je vais vous le mettre, les 30 pages, vous allez vous les coltiner. Dans l'immédiat, il n'existe pas de choix possible de vaccin. Et même si les essais cliniques, vous entendez bien, même si les essais cliniques indiquent une réponse immunitaire chez les personnes âgées, incluses dans ces essais avec les vaccins ARN, on ne peut exclure qu'un autre vaccin potentiellement mieux adapté aux personnes âgées soit proposé dans quelques mois. Cela ne justifie pas de différer l'administration rapide du vaccin disponible. Vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas de leur discours, de leur inhumanité ? Alors qu'il est jugé efficace par les autorités compétentes et qu'il pourra éviter le décès de personnes âgées, cette interrogation, juste après ils te mettent ça, aucune honte, rien, c'est incroyable. Cette interrogation rend nécessaire un suivi des personnes âgées et l'enregistrement de l'évolution de leur état de santé à la suite de la vaccination. Si les personnes âgées en EHPAD représentent clairement la plus grande priorité parce qu'elles sont les plus vulnérables et qu'elles sont regroupées, ce qui facilite la logistique de distribution du vaccin, ça ne les gêne pas non plus. Il ne faudrait pas trop retarder l'offre de vaccination aux personnes âgées à domicile. Ben non, allons-y, économisons des retraites. Qui sont elles aussi très vulnérables, très souvent en contact régulier avec des personnels soignants à domicile et dont l'espérance de vie est statistiquement plus longue. Je ne sais pas si on parlait que des soignants ou des personnes âgées. Je ne sais pas. Elles souffrent aussi de la raréfaction des contacts imposés par des mesures barrières. Leur vaccination est donc plus compliquée à organiser, mais l'enjeu est important. La vaccination implique le consentement de la personne. Je répète, la vaccination implique le consentement de la personne qui devrait être appréhendée comme un assentiment. Vous comprenez ? Un assentiment. C'est-à-dire, oui, bah oui. Même un signe de tête, c'est bon, les gars. Délivré en cours d'un processus d'information et de recueil de la volonté en plusieurs temps et selon des modalités adaptées à la personne, orale, vous entendez bien, orale ou écrit, en EHPAD. Oui, si, si, elle me l'a dit, moi, je lui ai tout dit, là, personne pour contrôler. Je lui ai dit, il n'y a eu pas de problème, aucun problème. Oui, elle m'a dit qu'elle était d'accord. Que devient donc le consentement libre et éclairé ? Éclairé veut dire en connaissance des risques. Mais étant donné que le médecin sait juste qu'il n'est pas efficace à 100%, comment alors le consentement va-t-il être éclairé ? Dites-le-moi donc. Il y a dans ce courrier rien de ce qui est mis dans ce vaccin. Rien. Juste qu'il n'est pas efficace à 100%, ce qui ne veut rien dire, parce qu'il peut être efficace qu'à 1%, ou pas du tout. Pour les personnes âgées, et surtout, si l'objectif est de les protéger, il convient de s'interroger sur la part de liberté qu'il aurait laissée dans l'exercice de leur autonomie. La décision finale se construit par le dialogue entre la personne âgée, le médecin et les soignants. Entendez, par tous les gens formatés et qui touchent de l'argent pour te vacciner. Avec des discours anxiogènes qu'on a véhiculés depuis un an par les personnes censées être des médecins. Ou je dis censées être des médecins parce qu'à cette allure-là, c'est plus des médecins pour moi. Je vous le dis tout de suite, c'est plus des médecins. La réflexion autour du consentement à la vaccination en EHPAD, comme dans d'autres établissements médico-sociaux, suscite des questions d'ordre éthique, on y revient, et juridique étroitement liées. Faut-il un consentement particulier pour la première phase de vaccination par rapport à une vaccination classique, c'est-à-dire la grippe ? Ou il y a une forme de consentement par défaut, sans vérification que l'information ait été bien reçue et comprise par la personne. Oui, parce que en l'absence des résultats de l'étude de phase 3, 4, les incertitudes demeurent et il est nécessaire que la personne en soit consciente. C'est ce qu'on écrit au médecin. Il est nécessaire que les gens comprennent que les incertitudes demeurent parce que il n'y a pas de résultat dans l'étude de phase. Alors les médecins, vous allez le dire à vos patients ? Est-ce que vous allez le dire à vos patients ? Le recueil d'un consentement écrit peut se concevoir à condition qu'il ne soit pas conçu comme le seul moyen de protéger l'institution ou de rassurer la famille, mais qu'il soit la dernière phase de la recherche effective d'un consentement. Et il n'est pas inutile de rappeler quelles conditions doivent présider à l'effectivité d'un consentement libre. Trois phases doivent se suivre. Une information loyale et compréhensible des bénéfices et des risques de la vaccination et surtout une réelle écoute de la personne, un échange avec l'ensemble des parties. Mais vous nous prenez pour des imbéciles. Quand vous êtes avec des personnes qui sont malades, qui ont des comorbidités, qui n'entendent pas très bien, qui sont extrêmement âgées, handicapées, vous pensez sérieusement qu'elles vont comprendre derrière vos masques ce que vous leur racontez ? On vous ment. On vous ment. Dans les EHPAD, on ne demande rien à personne. On vaccine tout le monde et le message, il sera passé comme ça. C'est un déterminant fondamental pour créer la confiance dans l'institution de soins, en particulier dans cette période de défiance vaccinale. Cette information peut porter sur les enjeux. Toujours les pépettes, hein. L'état des connaissances sur le vaccin, les modalités d'information et de recueil du consentement, ainsi que sur l'ordre de la sollicitation des tiers lorsqu'elle est dans l'impossibilité de s'exprimer. Hein, personnes de confiance, représentants légaux et familles, voilà, qui habitent la plupart du temps très loin et qu'on n'en a rien à foutre. Et puis les gens auront un temps de réflexion personnelle. Hein, ça va permettre de mettre à distance l'émotion. L'émotion. C'est noté comme ça. Les éventuelles pressions des uns et des autres. Oui, trop de pression. Là, c'est vrai qu'on n'a pas de pression avec BFM Merde. Hein, ça, on n'a aucune pression. Et c'est au prix de ce travail de maturation qu'on va pouvoir construire son propre choix. Explique-moi où est le choix sans aucune information, puisque eux-mêmes n'ont pas d'informations à te donner, parce que nos testeurs, je vous le répète, ce sera nos personnes âgées. Et enfin, le temps de la réalisation de la vaccination, si tel est le choix souhaité. Hein. Ces trois temps sont les points clés d'un protocole vaccinal qui doit être mis en place dès maintenant à l'échelle de chaque établissement. Il est essentiel d'établir et de conserver une traçabilité de ce processus dans le dossier médical de chaque résident. Et les familles doivent être informées régulièrement et tenues au courant du dispositif qu'on met en place. Alors que l'attribution des premiers vaccins impose des choix urgents, les mois suivants permettront d'approfondir la réflexion éthique sur la vaccination, hors contrainte de l'urgence. Mais dès qu'on vaccine, on n'est plus dans l'urgence, on n'aurait plus de malades hein, du tout, grâce à une consolidation des données. En fait, ce qu'ils veulent surtout, c'est le retour des vaccins, s'il y en a, combien ça a tué de gens. Hein, parce qu'ils n'ont aucun, mais alors aucun recul là-dessus. Ah oui, puis sur l'évolution de la pandémie, les données scientifiques et médicales, sur l'efficacité et les effets secondaires possibles. L'efficacité, je ne sais pas si tu te rends bien compte, mais vous vous rendez compte sur l'efficacité. Ils ne savent rien, ouvrez les yeux. Dites-moi les médecins, là, avec Brusa, là, puis d'autres, là, tous ceux qui dénonçaient, vous n'avez pas reçu cette information ? 23 pages, je suis la seule ? Personne n'en parle ? Je suis la seule ? Trop tard, ton staff, tout ça, personne n'en parle ? Vous n'êtes pas au courant, les gars ? Allez-y, balancez-le, parce que c'est très très grave ça par contre. Et personne n'en parle. Je suis quand même très étonnée. Le comité scientifique Covid-19 avait identifié dans la population générale 22 millions de personnes à risque susceptibles de constituer des groupes prioritaires pour la vaccination. Non seulement pour sauver des vies, on y revient, mais aussi pour limiter la circulation virale. Pour une grippe, messieurs-dames, pour une simple grippe. Par ailleurs, l'acceptation de se faire vacciner suppose que les risques encourus pour la santé soient connus et négligeables. Mais il implique aussi une transparence rigoureuse de l'information, tant sur l'épidémie et le risque vaccinal, que sur la contribution de la vaccination et la résolution de l'épidémie. Vous voyez, au début du texte, on parlait d'une pandémie. Maintenant, on vous parle d'une petite épidémie. Une petite épidémie. On va vacciner toute une population avec un vaccin de merde qui modifie votre ADN et qui, du coup, modifiera à tout jamais ce que nous sommes, des êtres souverains. C'est pas grave. Petite résolution d'une épidémie. Est-ce que c'est passé en épidémie d'un seul coup ? On manipule les textes, on manipule les mots. Et quand on manipule les mots, on vous fait accepter des choses pour une simple épidémie. C'est-à-dire qu'on t'embrouille ton cerveau. Cette information qui ne doit pas prendre la forme d'une incitation morale est seule susceptible de ne pas entretenir la méfiance, même si celle-ci relève aussi d'autres considérations plus sociétales, non liées à la vaccination. dans un contexte général de défiance vis-à-vis de la défiance publique, de la puissance publique. Oui, là, ils se rendent compte quand même qu'on est un peu, on les croit plus trop trop quand même. On est bête, mais enfin quand même, on a du mal à les croire. Donc, ils en parlent au médecin. Il y a une défiance, voilà. Hein, faut pas entretenir la méfiance. Enfin, aider les gens à accepter, d'accord? Alors là, il te parle maintenant, d'un coup, hein, il te parle de ça, tu vas voir. Enfin, l'exigence de solidarité que revêt toute politique vaccinale pourrait aussi être considérée comme une limitation de la liberté individuelle. Oui. Notamment si une obligation vaccinale était instaurée. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Actuellement, ce n'est pas le cas. Est-ce à dire que par la suite, ça pourrait l'être? Il n'y a qu'un pas. Vaccination des personnels soignants. À vous, messieurs, dames. Certains pays, en particulier les États-Unis, ont choisi cette stratégie dans la mesure où le vaccin protégerait de la transmission. Il serait donc très efficace de pouvoir vacciner le personnel soignant. En plus, ça rapporterait aussi quand même au passage. Le questionnement éthique se manifeste lorsque ces personnes n'ont pas elles-mêmes de risque de maladie grave du fait de leur âge et en l'absence d'un facteur de risque connu. C'est le cas de la très grande majorité des personnels de santé. Le dilemme entre intérêt individuel et intérêt de la société prend ici une dimension nouvelle, puisqu'il existe pour les soignants un risque professionnel de contaminer des patients fragiles. Je te rappelle que c'est toi, les gens ils sont vaccinés, mais tu peux les contaminer parce que toi, tu n'es pas vacciné. Important, hein ? Important de voir que le vaccin n'est pas efficace. Donc, ils ont la charge et un risque accru d'être eux-mêmes contaminés. Comment donc concilier respect de l'autonomie et éthique professionnelle? Et comment? Ah, une pression morale des autorités sanitaires pourrait exacerber la défiance des soignants. Ils sont emmerdés parce que il y a la défiance du peuple et des soignants d'un coup. Ça fait beaucoup, hein. Et avec les policiers, ils sont pas défiants encore. J'espère que ça viendra. Qui, dans un contexte de grande tension des secteurs médicaux, se sentiraient pris en otage et privés de leur liberté de décision personnelle. Assurer l'accès au vaccin pour éviter le risque accru d'exclusion et d'inégalité. Le lien est clairement établi entre diffusion accrue du virus et conditions économiques, sociales, géographiques défavorables. En clair, messieurs les médecins, expliquez aux gens qu'il faut qu'ils fassent le vaccin. Parce que sinon, ça sera encore pire au niveau économique et sociétal. Ah oui. En clair, assurer l'application du vaccin sans recourir, c'est écrit et je poursuis ma lecture en clair. S'assurer de l'application du vaccin sans recourir à des procédures stigmatisantes. L'obligation vaccinale est oui, parce que qui serait responsable en cas d'obligation? Eh bien l'État. Alors il vous raconte la messe. Les obligations vaccinales qui doivent être validées en tout état de cause par le législateur ne peuvent être décidés que dans deux cas très précis, prenant en compte la gravité de l'infection, les bénéfices pour la population concernée et les risques vaccinaux. En dehors des vaccinations obligatoires des enfants, d'un certain nombre de vaccinations spécifiques des personnels de professions de particulières et de celles qu'imposent certaines régions du monde, aucune autre vaccination n'est obligatoire en France. Et je relis la phrase. En dehors des vaccinations obligatoires des enfants, d'un certain nombre de vaccinations spécifiques des personnels, ce n'est pas obligatoire pour les personnels non plus. Ces vaccinations obligatoires gratuites, quand c'est gratuit, il faut que tu t'inquiètes, conditionnent l'accès à certains services et métiers. Oui, c'est-à-dire tu n'auras plus accès. Si tu n'es pas vacciné, tu n'auras plus accès. C'est ce qui nous attend, hein. En ce qu'elle porte atteinte à la liberté individuelle, l'obligation vaccinale interroge sur les circonstances qui pourraient la justifier. Et dans le cadre de la pandémie de Covid-19, elle ne peut se concevoir que comme un dernier recours. Donc attention, si nous refusons en masse, elle pourrait se mettre en place. Attention si vous n'êtes pas gentils les enfants. Face à une situation de très grave danger créée par une pandémie non contrôlée, on revient à la pandémie. Oui, parce qu'il faut le vendre, le bordel, là. Donc, on reparle de pandémie. Avec une offre de vaccins à l'efficacité et à l'innocuité parfaitement connue et éprouvée avec le recul nécessaire. Mais il est hasardeux de s'aventurer sur l'anticipation des conditions éthiques d'une nouvelle obligation vaccinale. Alors que ces conditions ne sont pas réunies et que le passé récent nous a appris qu'il fallait être très prudent pour les prédictions d'évolution de la pandémie. Si la situation se modifie et qu'un recours à l'obligation vaccinale est envisagé, cette question devra donner lieu, au vu des circonstances du moment, à une concertation qui devra notamment porter sur les questions éthiques. L'accès possible de différents vaccins, comment envisager un libre choix ? Parce que la vaccination, alors là on y revient, ne résoudra pas l'épidémie en quelques mois. À nouveau, on repasse sur l'épidémie, hein, vous avez vu. Hein. On passe de l'un à l'autre, on ne sait plus, épidémie, pandémie, on ne sait plus. Outre les deux vaccins en passe d'être autorisés, 11 sont actuellement en phase 3, 5 et 6, en développement clinique, laissant espérer une autorisation de mise sur le marché pour certains en 2021. C'est-à-dire, en clair, c'est que le début des vaccins, je te le dis tout de suite, et c'est loin d'être la fin du masque. La notion du choix intervient à deux niveaux. Celle des autorités sanitaires européennes et nationales, au national, le choix individuel d'accepter ou non la vaccination. Le choix du vaccin sera-t-il laissé à la personne en concertation avec son médecin? Ou se verra-t-elle au contraire imposer un type de vaccin en fonction de son âge, de son statut médical ou de l'état des stocks vaccinaux lui-même liés aux précommandes gouvernementales? C'est inscrit sur le papier. Hein. Comment concilier l'efficacité de la politique sanitaire et le possible engouement d'un large public pour un ou plusieurs produits considérés comme plus efficaces ou moins risqués? Et ils sont passés à la phase 2. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs vaccins, tu pourras choisir, tu auras un engouement pour ton vaccin que tu pourras choisir. C'est pas merveilleux? Elle n'est pas belle la vie, hein, franchement. Ah ben, ça va devenir à la mode comme ton masque. Hein. Tu auras des masques avec des Adidas. Ou, tu vois, c'est merveilleux, hein, merveilleux. Sur ces questions, il est essentiel que la communication soit transparente, qu'elle explicite les critères scientifiques et médicaux. Oui, les labos vont communiquer. Ah ben oui. Je continue la lecture. Il sera aussi important de mettre en garde le public contre les réseaux de criminalité organisée qui proposeraient de faux vaccins ou suggéreraient de les fabriquer soi-même. Alors ça, je te le dis, c'est du jamais vu. Non, attends. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler des réseaux organisés qui sévissent pour des vaccins? Non, parce que moi, je pensais qu'il n'y avait que Big Pharma qui était un réseau organisé de criminels. Hein, je suis trop déçue, je te jure, trop déçue. Et pire, alors ceux qui les fabriqueraient eux-mêmes, incroyable. Incroyable d'en arriver à un tel tissu de mensonges qui permet d'introduire, je poursuis la lecture de ce torchon, garantir le suivi sanitaire et le suivi médical des personnes vaccinées. Nous y voilà, le traçage. Les médecins devront donc tracer, comme avec les tests, et pour qu'ils acceptent avant, alors on va balancer un mensonge qui va le justifier en disant ben, « il y a tous ces bandes de criminels qui organisent des faux vaccins. Il n'y a pas que Big Pharma !» Incroyable. Hein, on est à un niveau, mais à un niveau tellement bas. J'aurais jamais cru lire un truc pareil. C'est inimaginable. La vaccination suppose des moyens humains et financiers adaptés à une communication régulière des résultats. Et cette démarche, inscrite dans la durée, donne une information essentielle pour la confiance des citoyens dans le bien fondé. Bientôt, on va chanter la Marseillaise pour te vacciner, je te le dis tout de suite. Hein. Dans la vaccination qui durera plusieurs mois ou années. Je relis. La vaccination suppose des moyens humains et financiers adaptés à une communication régulière des résultats. Et cette démarche inscrite dans la durée donne une information essentielle pour la confiance des citoyens dans le bien fondé de la vaccination qui durera plusieurs mois ou années. Un petit mot en passant. Année. Ce suivi prend une importance particulière pour les personnes âgées vaccinées très prochainement. Le lien de cause à effet entre vaccination et dégradation de l'état de santé peut être particulièrement difficile à prouver ou à infirmer chez ces personnes ayant très souvent des polypathologies. Tu vois, ils anticipent tout. Ils ont tout anticipé. C'est pas moi qui le dis. C'est eux qui l'écrivent noir sur blanc. Je poursuis la lecture. Cette constatation incite à un suivi très rigoureux des personnes vaccinées pour éviter que des décès survenant après la vaccination ne soient systématiquement imputés et injustement imputés au vaccin. Manquerait plus que ça. Attends, au risque d'affecter la confiance du public. Non, vous ne rêvez pas. C'est bien inscrit. Ça a bien été donné à ces médecins qui ont reçu ce mail. la poursuite des essais cliniques internationaux, le suivi des essais cliniques de phase 4 qui relèvent des industriels, la réalisation d'essais cliniques académiques de France, plateforme COVI-REVAC, sous l'égide de l'INSERM, participe dès maintenant à l'évaluation des candidats vaccins les plus prometteurs et les plus ciblés sur des populations à risque, permettant ainsi de mieux comprendre les réponses immunitaires et les efficacités complémentaires, et donc d'affiner la stratégie vaccinale. Cette démarche scientifique et la communication de proximité sont importantes pour l'établissement de la confiance des citoyens envers les scientifiques. Alors, je ne sais pas s'ils parlent des scientifiques BFM merde ou pas, hein, c'est pas les mêmes. La traçabilité des vaccins et des personnes vaccinées est un élément majeur du suivi. Nous y sommes. La traçabilité, élément majeur du suivi. Un système d'information déployé au niveau national pour suivre l'ensemble du processus de vaccination Covid mis en place dès le début des opérations de vaccination, c'est-à-dire dès lundi, permettra de répondre aux enjeux éthiques de traçabilité pour une analyse fine de l'usage et des conséquences à long terme des vaccins utilisés. Ce système, qui peut intervenir dans le suivi de la vaccination comme pour les besoins de la pharmacovigilance, devra reposer sur des moyens matériels et logiciels maîtrisés nationalement dans un souci affirmé de souveraineté sanitaire. Vous réalisez ce que vous réalisez. L'information des personnes, la protection des données personnelles, de la vie privée, des soins, des points de vigilance importants, sont des points de vigilance importants. Les dispositions du règlement général sur la protection des données, RGPD, devront être respectées, notamment celles relatives à l'information et au consentement. On revient au consentement. On est toujours dans le consentement, et ce, quelle que soit l'importance de ces données, au regard des enjeux de santé publique. Ce système et les données conservées devront être soumis à l'attention périodique du comité de contrôle et de liaison COVID-19. Et ouais, les enfants, on sera tous sous contrôle. Si l'instauration d'une stratégie vaccinale est à l'évidence une excellente nouvelle, elle ne saurait avoir pour effet d'éteindre à court terme la pandémie. Je relis. Si l'instauration d'une stratégie vaccinale est à l'évidence une excellente nouvelle, elle ne saurait avoir pour effet d'éteindre à court terme la pandémie. Et elle ne doit pas avoir pour effet de modérer nos efforts pour lutter contre la propagation du virus. Comme le masque, qu'il s'agisse du respect des gestes barrières ou des stratégies de dépistage et de la stratégie testée, tracée, isolée, accompagnée. Une exigence éthique majeure en temps de crise sanitaire, une information continue, transparente, compréhensible pour tous les citoyens, comme ils ont l'habitude de le faire. L'information, un droit de la collectivité, la Déclaration universelle des droits de l'homme, ils osent, oui, ils osent, reconnaît un droit universel à l'information. L'avons-nous ? Ah oui, pas efficace à 100%. Seule information. ARN, mais comme a dit Véran au médecin, de toute façon, l'ARN va s'autodétruire. Tout, 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 tout. Tu vois, ce message va s'autodétruire. De lui-même. Il nous prend pour des cons. Mais ils poursuivent leur mail ainsi. C'est aussi accepter l'incertitude qui vient de ce que l'on ne sait pas, mais aussi du caractère éphémère du savoir, dans une situation aussi évolutive. Attends, on la relit parce que, t'as vu, ça s'appelle de la novlangue, hein. Ah, c'est la novlangue, c'est mortel. Ah ben, c'est mortel. Tu comprends rien. Je recommence. Mais ils poursuivent leur mail. C'est aussi accepter l'incertitude qui vient de ce qu'on ne sait pas. Ah ben, la police n'aurait pas dit mieux. Mais aussi du caractère éphémère, du savoir, dans une situation aussi évolutive. Pas grave, on tente sur les personnes âgées. Ils avouent clairement ne rien savoir. Mais la collectivité doit accepter et partager avec les autorités cette incertitude qui marque le contexte des prises de décision. Alors elle l'acceptera d'autant mieux que les autorités sauront la reconnaître et que les citoyens seront conscients de la difficulté. Allez les médecins, en place pour le quadrille. Vous allez tous expliquer aux gens qu'il y a beaucoup d'incertitudes, mais bon, c'est inévitable. On est obligé de le faire pour la souveraineté. Prêt à danser les médecins ? Produire et donner accès à des informations de qualité est une exigence pour les différents experts. Bien que cette exigence soit naturelle pour les scientifiques, leur mise en avant en ces temps de crise est telle que l'on a vu proliférer des articles publiés sous forme de projets d'articles avant leurs expertises. D'articles douteux que des revues prestigieuses ont dû parfois retirer. Eh oui. Ah, on sait qui commande, hein. Même Monsieur Raoult est douteux, paraît-il, pour ces gens-là. Si ces manquements ne s'expliquent par la concurrence économique, je poursuis ma lecture, entre les revues et par des enjeux financiers d'entreprise, ainsi que par l'impact des publications sur le déroulé des carrières des chercheurs, force est de constater qu'ils mettent en péril la qualité de la construction collective du savoir et concourent au doute du public sur la validité du travail scientifique. Un petit coup sur Raoult, un petit coup sur Perron, un petit coup sur tout le monde, moi j'ai raison. L'analyse du très grand nombre des informations disponibles ne peut être faite que par des personnalités compétentes dans des domaines d'intérêt, mais parce que les autres ne le sont pas, nous on l'est, mais pas eux. Ah, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas labos, hein. Dans les domaines d'intérêt relevant du champ d'études, il faut en effet comprendre les conditions expérimentales et méthodologiques des résultats obtenus, apprécier leur qualité, qui doit répondre à des critères acceptés par tous, les corréler à d'autres études, puis produire un savoir partageable. C'est ainsi que les analyses statistiques, dont les interprétations sont délicates parfois multiples, doivent être mises en perspective pour aboutir à des décisions fondées. Certaines données, par exemple, l'accélération exceptionnelle de l'obtention de nouveaux vaccins s'explique par plusieurs causes différentes, le travail de la science, mais le choix des industriels, puis celui des incitations politiques. Tu sais même plus qui est industriel, science ou politicien, tu sais même plus. Tous dans le même panier de crabes, tous. Les présentations parcellaires d'analyse, domaine par domaine, sont essentielles pour les experts, mais elles privent la communauté d'une vue d'ensemble et suscitent des inquiétudes et des polémiques. Donc l'expertise collective, en multidomaine, a un grand rôle. On mélange tout, il en sortira bien quelque chose, hein ? Et puis alors, le code de déontologie médicale impose une information loyale, claire, appropriée. Mais ça se voit tous les jours dans les cabinets médicaux. Depuis les 11 vaccins de Madame Buzyn, tous les jours, on les a vus nous dire « 11 vaccins, c'est dangereux, hein. On te vaccine contre ça, contre ça, contre ça, contre ça, contre ça. » En fait, tu as 72 valences. Ah, tu savais pas? Ah ben si. Il y a quoi dans le vaccin? J'en sais rien. Moi, c'est le labo qui me l'a vendu, j'en sais rien du tout. Des formoles, des formalides, du fœtus humain. Oh non, je crois pas, non. Si, c'est marqué, monsieur docteur. Non, je crois pas, non. 4 heures dans leur formation médicale. 11 ans d'études, 4 heures de formation sur les vaccins. Au top, les mecs. Et puis un petit peu d'argent par la sécu pour vacciner. Allez, le tour est joué. Au prochain. Alors maintenant, ils disent... Je continue ma lecture. Il faut à ce sujet rappeler que le débat contradictoire de la recherche, outil puissant de validation des méthodologies et des résultats, dépasse les opinions et idéologies personnelles. Ouais, éteins-toi, ne pense plus, ne réfléchis plus. Tu vois pas qu'il y a des pros qui pensent pour toi. L'information. Le droit pour toute personne de cheminer vers un choix éclairé et libre. Dans le cadre de la vaccination, comme dans d'autres situations d'offre de soins, consentir, c'est construire de façon intime son propre choix vaccinal. C'est le choix éclairé et libre que chacun doit faire. Il se bâtit en particulier sur l'obligation d'offrir à chacun une information vérifiée, objective, compréhensible, qui ne cache pas les incertitudes des options. Mais il ne faut cependant pas tomber dans la controverse médiatique, malheureusement trop fréquente, autour de cette vaccination. Ben oui. C'est-à-dire, tous ceux qui s'opposent, on les fait taire. Donc, évidemment, le message sera très clair, hein, pour construire son propre choix vaccinal, étant donné qu'on n'émet aucune hypothèse contradictoire. Forcément. Puisqu'on éteint tout le monde. Même M. Gendron s'est fait bloquer 1 mois pour apporter une hypothèse contradictoire d'un scientifique. Oui, parce que tu as des scientifiques de seconde zone, j'imagine. Dans certaines situations, l'éclairage doit passer par une relation interpersonnelle, bienfaisante, empreinte d'attention, de respect, de rigueur et d'humilité. Il faut la lire, cette phrase, quand même. La relation avec son médecin traitant ou le personnel soignant, une relation souvent ancienne et à l'opposé d'une vision institutionnelle centralisée, est probablement la pierre angulaire de cet échange. Allez-y, les médecins. Chut, au quadrille. C'est vous qui allez prendre... C'est vous qui devez leur dire « Vous risquez rien, les copains. Venez, allez, donne ton bras. » Ah, bah oui, non, t'as 3 cornes, ouais, c'est bizarre, ça. Bah, c'est l'ARN, hein. Pff, ouais, je pense que c'est l'ARN. Ton fils a 3 jambes. Ah, oui, bah, il courra plus vite. Hein ? Ouais, il courra plus vite. La formation dans le contexte de la vie en EHPAD, dès à présent et en amont de la première phase de vaccination, en particulier dans les EHPAD, il est recommandé que chaque établissement et service accueillant des personnes vulnérables organise dans un climat de confiance, alors café gâteau, hein, et de transparence, hein, un temps d'information, de dialogue à destination de l'ensemble des usagers et des tiers, hein, les responsables légaux et tout ça, en associant bien sûr à la démarche le président de l'instance représentative des usagers. Et puis un professionnel formé à la réflexion éthique, hein, le EERER. Allez, il est commandé aussi que chaque établissement puisse se doter d'un protocole d'information, hein, de l'usager ou du tiers qu'il représente, afin d'octroyer au personnel soignant un temps d'échange nécessaire pour l'élaboration d'un choix adapté au degré de compréhension de la personne vulnérable, puis si elle le souhaite, en présence de ses proches. Mmh. Ah ben non, il n'y a pas de contre-pouvoir, hein. Ah ben non, c'est que des gens formatés pour que tu achètes le vaccin, hein, pour que tu le manges, pour que tu l'avales. Ah oui, ben c'est conçu pour, hein. Le but, c'est pour que tu dises non. Alors, en dehors de la période d'urgence sanitaire immédiate que nous vivons, hein, et des nouvelles informations qui nous sont proposées à rythme excessivement rapide, il pourrait être utile de mettre en place un débat national au printemps 2021. Une occasion pour prendre le temps d'échanger, d'analyser les évolutions, les résultats initiaux de la campagne de vaccination dans un climat, bien sûr, serein et confiant. Le comité citoyen du vaccin mis en place par le CESE pourra également apporter son éclairage, hein. La coopération internationale, une nécessité pour vaincre la pandémie, on est revenu à une pandémie d'un coup, le virus SARS-CoV-2 a plongé le monde entier dans une pandémie aux effets sanitaires, économiques et sociaux dramatiques et prolongés, hein. Et celle-ci pose un défi collectif et invite à reconnaître l'importance d'une coordination internationale entre tous les États qui s'étendent à tous les domaines intéressants d'une pandémie. Coopération scientifique, notamment, qui a conduit quand même à l'offre en un temps record de vaccins. Je vous lis ce qu'ont reçu les médecins. Hein. Ah eux, non, on a des scientifiques en un temps record, hein, c'est-à-dire un mois et demi à peu près, hein. Mais bon, ça doit se traduire par la transparence de la communication des données, épidémiologistes comme scientifiques. Voilà. Voilà, nous en sommes, mes amis. La santé tend à s'imposer comme un bien commun, mondial, qui peut être le plus important de tous. Même si beaucoup de pays en voie de développement sont moins touchés par la pandémie. Bah, c'est-à-dire, il y a moins de journalistes corrompus, donc c'est plus embêtant. Le risque d'une inégalité d'accès, contraire à la notion même de bien commun, ne doit pas être négligé. Ah, ils vont faire pleurer les docteurs, hein. Ah, je te jure, ils vont faire pleurer les docteurs. Il faut rappeler ici avec force que le principe de solidarité et d'assistance aux plus précaires doit l'emporter sur les impératifs de rentabilité économique, quand même. Ah, ça a vomir. La France, l'OMS et l'Alliance du vaccin ont lancé l'initiative COVAX, elle-même intégrée à un dispositif plus large, accélérateur, Acte 41, qui entend accélérer l'accès équitable aux outils de lutte contre la pandémie. L'idée est de réserver assez de doses de vaccins pour protéger initialement 20% de la population dans les pays signataires. Ils ont tout prévu, tout, t'inquiète, tout est prévu. Plus de 170 pays ont déjà rejoint le dispositif et ont manifesté une prise de conscience commune des exigences de solidarité internationale et du respect de la personne humaine, ce qui contraste avec l'absence de coordination, de coopération constatée en 2009. Bah, c'est-à-dire, ils n'étaient pas prêts, c'était qu'une répétition, hein, faut le dire aussi quand même. Attends, la grippe H1N1, on s'est un peu planté, on n'a pas réussi du premier coup, on a fait une autre pandémie. Puis t'as vu, H1N1, personne, très peu de morts, très peu de morts. Ah, c'est-à-dire, tout le monde n'y a pas cru et tout, c'était une répétition. Donc voilà, bah, là, maintenant, on est vraiment dans la représentation terminée, quoi. On est sur scène, hein. Ah, ça y est, on est carrément sur scène. L'OMS peine quand même à recueillir des fonds nécessaires à cette action. C'est ce qu'ils disent aux médecins. Je poursuis ma lecture. L'OMS mène toutefois à recueillir des fonds nécessaires à cette action. Bah, c'est-à-dire, ils ont perdu Trump, hein. Bien que le bénéfice financier d'une maîtrise planétaire de la pandémie puisse être de 10 à 12 fois supérieur aux dépenses engagées dans le cadre de l'acte. L'exigence morale de solidarité internationale prend ici une double dimension. Faciliter l'accès à la vaccination pour les pays en difficulté, afin de lutter à l'échelle mondiale contre la pandémie, réduire la crise économique qui lui est imputable, ce qui permettrait d'atténuer ses effets dommageables. On voit ainsi que l'exigence éthique de solidarité internationale rejoint les intérêts nationaux très concrets. Et la France doit continuer à porter cette vision à l'échelle nationale. En conclusion, la durée et la gravité de la pandémie créent depuis un an une situation exceptionnelle, dominée par l'incertitude, sa dynamique propre, le rythme d'évolution rapide de données épidémiologiques et scientifiques, la remise en cause de notre mode de vie, dont les conséquences sont encore mal appréciées, nous confronte à la difficulté de faire des choix nécessaires, collectifs et individuels, dans l'ignorance de certains paramètres de décision importants. Nous confronte à la difficulté de faire des choix nécessaires, collectifs, individuels, dans l'ignorance de certains paramètres de décision importants. Acteurs politiques, scientifiques, médecins, citoyens, nous sommes tous mobilisés, concernés par cette situation. Non, moi non, les gars, non, non. Moi, je vais bien, il n'y a pas de malade autour de moi. C'est quoi votre délire, là ? On en est où, là ? Ainsi, je poursuis ma lecture, la décision de... J'ai presque fini. La décision de débuter une campagne de vaccination alors même qu'un vaccin vient à peine d'être autorisé exacerbe cette incertitude qui complexifie l'appréciation de la balance bénéfice-risque individuel. Il est donc encore plus essentiel que cette décision respecte un cadre éthique, partagé, respecté, qui se fonde sur les principes auxquels notre société est attachée, afin de garantir des valeurs d'équité, de justice et de bienséance qui doivent s'appliquer quel que soit le caractère exceptionnel de la situation pandémique. Ça constitue une première réflexion sur les enjeux éthiques posés à brève échéance. L'allocation des premiers vaccins disponibles aux personnes vulnérables, dont les personnes âgées dans les EHPAD. Les étapes suivantes dont la stratégie vaccinale dépendront dans les mois qui viennent, de l'arrivée sur le marché de nouveaux vaccins et de leur disponibilité accrue, de l'évolution du contexte épidémiologique, de celle des connaissances scientifiques et médicales pour les premiers vaccins. De leur capacité à arrêter la transmission virale, elles ne peuvent être anticipées au vu de l'incomplétude des connaissances actuellement disponibles. Mais c'est pas grave, on va les vacciner quand même. C'est pas grave. On sait pas pourquoi on a un virus. On sait pas comment il marche. On sait pas qui l'a. On sait pas qui l'a pas. Les tests PCR servent strictement à rien. Mais c'est pas grave. On va vacciner avec un ARN pour modifier ton ADN. Et alors, comble de bonheur, ils ont tellement confiance dans leur vaccin qu'ils ont acheté des stocks d'adrénaline pour les EHPAD. Est-ce que vous savez à quoi sert l'adrénaline? Eh bien, l'adrénaline, c'est en cas de choc anaphylactique, hémorragique, traumatique. Et dans les situations où le pronostic vital est engagé. C'est à ce moment-là qu'on va utiliser l'adrénaline pour les détresses cardio-circulatoires dues au choc anaphylactique. Alors, beaucoup d'entre nous se demandent quand est-ce que les choses reviendront à la normale? La réponse est jamais. Vaccin ou pas vaccin. La normalité d'avant la crise est morte. Et rien, absolument rien, ne peut nous ramener en arrière. Parce que petit à petit, ils définissent une nouvelle normalité que vous allez tous accepter comme normale, petit à petit, en effet de cascade. Et alors qu'il s'agit tout simplement d'une pandémie politique et économique destinée à effacer l'être humain. Voilà, mes amis, nous en sommes là, dans une situation apocalyptique, il faut le dire. Donc, c'est ce vaccin, si vous l'acceptez, eh bien, nous partons dans une sacrée situation. D'autres lettres surviendront, et chaque fois, j'en aurai bien sûr un double. Je vais essayer de vous mettre sur le drive ce courrier total que vous pourrez lire par vous-même pour que vous sachiez véritablement que les médecins reçoivent toutes ces informations. Je vous ai tout lu aujourd'hui. On l'a décortiqué avant parce que c'est noyé au milieu de tout ça, évidemment. Tout ça est noyé. J'attends que d'autres lanceurs d'alerte en parlent parce que je suis très, très étonnée. Je suis persuadée d'être la seule encore aujourd'hui à en parler. C'est un truc de dingue. Que font tous ces gens qui ont tant d'avocats, tant de personnes, qui sont au courant de tant de choses? Comment se fait-il qu'ils n'alertent absolument personne de ce qu'est le vaccin dans les EHPAD qui commence après-demain? Comment se fait-il que personne ne le sache? Je vous pose la question. Ah non, personne n'en parle. Ben non, mais vous comprenez ce qu'est l'opposition contrôlée? Est-ce que vous comprenez ce qu'est l'opposition contrôler. D'accord? Ah. Voilà, bon, on va s'arrêter là parce que une heure de live, c'est très long. Je suis absolument désolée pour la longueur de ce live, mais partagez-le, c'est tellement grave, franchement. C'est vraiment, vraiment, c'est très, très grave. Voilà. Les vaccins, j'espère qu'ils vont se vacciner, bien sûr. Bah, tous les soignants doivent le faire, hein. Ils vont être tracés, testés, tracés, protégés, alertés, secourir. Ah non, c'est que du bonheur, que du bonheur. À très bientôt. À très bientôt. Partagez cette vidéo. Franchement, c'est très, très important. Partout, vous pouvez la mettre. Envoyez-la par mail, envoyez-la partout parce que c'est un courrier réel. Je vais le mettre en dessous de la vidéo. Je vais le récupérer. Je vais le mettre en dessous de la vidéo. C'est hyper important. Bon courage à tous. Et il n'est pas obligatoire. On n'attend que votre consentement. Comme toujours, rappelez-vous, je vous ai toujours parlé du consentement. À très bientôt.